France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Jane Birkin à quelques jours du concert Gainsbourg Symphonique avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Une occasion de retrouver Jane et Serge sur les chemins de la musique et de la chanson. Jane Birkin à ce micro dans quelques minutes. En fin d'émission, place aux archives avec Martin Pennet qui vous racontera l'histoire du Lido. Mais avant toute chose, en ce radieux mois d'avril où l'on ne se découvre pas d'un fil, attention au changement de température qui provoque parfois des éternuements. Tchoum! Vous voyez, on peut tout faire en musique, même Hatchoum, surtout quand on a le talent de Fanélie Révoil, ici dans l'étoile d'Emmanuel Chabrier, sous la direction de Roger Desormières. Alors je vous l'ai dit, nous avons rendez-vous tout de suite avec Jane Birkin, juste le temps de nous rappeler que l'amour est bleu. Love is Blue par Paul Mauriat et son orchestre, un succès mondial pour ce thème du regretté André Pop qui avait été créé quelques années plus tôt par Vicky Leandros sous forme de chanson le 8 avril 1967, il y a exactement 50 ans.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
1967-1968, voilà, qui nous ramène aussi au temps de la rencontre entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Rencontre amoureuse, mais aussi rencontre musicale parsemée de chansons que Jane Birkin reprendra d'ailleurs pour une part dans quelques jours à Radio France au cours du concert Gainsbourg Symphonique. Elle a bien voulu être avec nous ce matin pour évoquer ensemble cette belle histoire.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantes tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantes tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaboniste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaboniste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort, à raison, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaponiste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaboniste qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres ce sont tous des cons.
Bonjour Jane Birkin.
Bonjour, bonjour.
On a tous nos petites madeleines, alors moi celle-là je l'écoute depuis que c'est sorti quasiment, j'étais tout petit, mais j'adore cette chanson. Je ne sais pas si pour vous ça ressemble un peu à Gainsbourg, ce texte qu'il a écrit sur l'aquaboniste, le type désabusé, à la fois drôle et triste.
Non, en fait c'était une chanson où je pensais plutôt à Dutronc.
À Jacques Dutronc.
Oui, il me semblait que ça, je l'avais écrit pour Françoise à propos de Dutronc, peut-être je me trompe. Et c'est plutôt un petit portrait de Dutronc.
Ah, voilà, mais qui n'a
un
pas...
Un modeste guitariste.
Oui, bien sûr.
Et puis surtout, à quoi bon, parce que ça, je ne disais pas vraiment à quoi bon. Alors que Dutronc, vraiment, oui, c'est un vrai mini-portrait de lui, alors pour le coup.
Ah oui.
Et quand Serge est mort, le Richomme m'a dit que je devrais chanter, donc le... Il n'y avait plus question de faire un tour de chant. Il fallait faire un concert qui était avec entièrement le dernier disque qu'il a écrit, qui était donc Amour des Feintes. Et il fallait que je chante toutes les chansons qui étaient dans ce dernier disque. Et puis il a dit qu'il fallait commencer le concert sans dire un mot, a cappella, et me mettre assis sur le bord de scène et chanter l'aquaboniste. Parce que ça pourrait passer comme un portrait de Serge et que les gens avaient envie de lui. Il venait juste de disparaître. Donc on commençait le concert comme ça. Et curieusement, ce petit disque alors, avec l'aquaboniste dessus, était joué au Japon.
Ah oui.
Et au Japon, on a pris cette petite chanson et on a mis sur un sitcom, une série de télévision, il y a une trentaine d'années, hein, où c'est devenu numéro un du hit parade des chansons étrangères. Donc j'étais tout d'un coup, j'ai dépassé les Rolling Stones avec cette toute petite chanson.
Ce qui est d'autant plus amusant, c'est que Dutronc, d'ailleurs, lui-même et François Hardy n'avaient pas trop aimé la chanson au départ, ou ils n'avaient pas voulu la chanter, en tout cas.
Je ne sais pas, je sais juste que
c'est ce qui est marqué dans le dictionnaire des chansons de ouais, Gainsbourg, ouais, voilà. Ouais. Donc finalement, bah, grâce à vous, grâce à Gainsbourg, et grâce à aussi, à d'ailleurs, moi je suis fou des arrangements, je ne sais pas si vous vous rappelez l'enregistrement, mais aussi cet arrangeur qui s'appelait Alan Hawkshaw.
Hawkshaw, oui, oui, oui.
Grand
longtemps.
Musicien.
Oui, 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 bien sûr.
En tout cas, moi je trouve que, je ne sais pas si on peut dire que Gainsbourg a eu un style différent pour chaque qu'une de ses interprètes, mais avec vous, je trouve qu'il a trouvé sa couleur parfaite pour votre voix, comme s'il avait trouvé un nouveau style dans le choix, justement, des arrangements, des orchestrations.
Il voulait que ça reste très anglais. Il voulait même que l'écriture sur les pochettes restait exactement la même et que ça serait à l'anglaise.
Ah,
il paraît qu'il y a une écriture à l'anglaise.
Une écriture à l'anglaise, y compris dans les arrangements, même sans doute. Et voilà, c'est peut-être ce qui fait la magie de toutes ces chansons, en tout cas, que vous avez enregistrées ensemble. Alors, on va reparler tout à l'heure de la reprise de beaucoup de ces chansons, d'ailleurs, dont l'Aquabonis, dans le Gainsbourg symphonique.
Oui. Hein.
Mais j'ai envie peut-être qu'on fasse un petit saut dans le temps. D'ailleurs, justement, vous venez de parler de l'Angleterre. Alors voilà, il y a un artiste que j'aime beaucoup d'avant la guerre, mais qui va sûrement évoquer pour vous quelques souvenirs.
Lady known as Paris, romantic and charming, left all her old companions and faded from view. Lonely men with lonely eyes are seeking her in vain. Her streets are where they were, but there's no sign of her. She has left the Seine. The last time I saw Paris, her heart was warm and gay. I heard the laughter of her heart in every street cafe. The last time I saw Paris, her trees were dressed for spring, and lovers walked beneath those trees, and birds found songs to sing. I dodged the same old taxicabs that I had dodged for years. The chorus of their squeaky horns was music to my ears. The last time I saw Paris, her heart was young and gay. No matter how they change her, I'll remember her that way. Think of happy hours and people who share them, old women selling flowers in markets at dawn, children who applauded Punch and Judy in the park, and those who danced at night and kept their Paris bright till the town went dark. The last time I saw Paris, her heart was warm and gay. I heard the laughter of her heart in every street cafe. The last time I saw Paris, her trees were dressed for spring, and lovers walked beneath those trees, and birds found songs to sing. I dodged the same old taxicabs that I had dodged for years. The chorus of their squeaky horns was music to my ears. The last time I saw Paris, her heart was young and gay. No matter how they change her, I'll remember her, Paris.
The Last Time I Saw Paris par Noël Coward. Alors tous les auditeurs ne connaissent pas Noël Coward, mais c'est un immense auteur, compositeur, interprète britannique, Jane Birkin. Mm-hmm. Et pour vous, je crois que c'est un nom familier.
Oui, il est un peu notre Sacha Guitry.
Exactement.
Voilà.
D'ailleurs, il a travaillé même avec Yvonne Printemps. Lui aussi, je crois, dans des pièces de théâtre.
Oui, oui, je sais que ma mère était dingue d'Yvon Printemps.
Ah bon ?
Oui, oui, bien sûr. Et cette chanson-là, je pense qu'il doit être juste à la Fall of Paris, justement, avec la guerre et ouais. Vichy France, etc., quand la France a tombé sous les Allemands.
Bien sûr.
Donc, Last Time I Saw Paris, je pense que ça fait allusion à ça. Et ma mère et Noël Coward faisaient des pièces pendant toute la guerre. et des comédies musicales et les chansons. Et maman avait un...
Il adorait votre mère, hein. C'était une de ses interprètes favorites, on
oui.
peut dire.
Oui, 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 elle était son inspiratrice.
Inspiratrice, sa muse.
Oui, sa muse, voilà.
Julie Campbell, hein, c'est son nom d'artiste. Je suis déçu parce que j'ai cherché, on a quand même beaucoup d'archives à Radio France, des 78 tours de votre mère, elle en a enregistré un certain nombre.
Bah, il y avait une chanson pour laquelle elle était vraiment connue pendant la guerre, qui s'appelle « A Nightingale Sang in Berkeley Square ».
Voilà, alors j'ai vu qu'elle l'a réenregistrée d'ailleurs beaucoup plus tard.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça.
Vous aviez de l'admiration pour son art de chanteuse quand vous étiez petite fille ?
Oui et non, parce que mon père nous a caché le fait qu'elle était actrice. Donc, on n'était pas là à emmener Baba dans les théâtres. Et puis, A Nightingale Sang in Berkeley Square, c'était pendant la guerre.
Ouais.
C'était sa chanson
pour
le moral des troupes, avec Noël Coward d'ailleurs. Et moi, j'étais née après la guerre. Donc, il y avait certains disques, je sais qu'ils étaient on pouvait les casser. Parce que pendant les bagarres entre mes parents, ils en ont cassé beaucoup.
Des piles de 78 tours.
Ils existent, elle qui chantait à l'époque, mais c'est très, très craquelé.
Ouais.
Et oui, elle a chanté ça toute sa vie, jusqu'aux 80, je sais pas, 5
voilà,
ans.
Voilà, on retrouve des petites vidéos d'elle, âgée, voilà, reprenant les tubes de Noël Coward, c'est très joli. Et vous-même aussi, vous avez quand même finalement assez vite eu cette attirance pour le spectacle musical, Passion Flower Hotel, par exemple.
Oui.
C'est une comédie musicale.
Une comédie musicale où j'ai rencontré mon mari, j'avais 17 ans, oui. Et il n'y avait rien de très bien dans ce comédie musicale, je ne crois pas, et certainement pas moi. Mais il voulait un personnage qui pouvait moquer, etc. Donc je tombais bien. Je sortais de l'internat moi-même, donc je connaissais le thème très très bien de l'internat, tomber amoureuse des garçons dans un autre internat. Voilà. Mais il n'y avait rien de remarquable, sauf de très grande beauté et talent de le compositeur que j'ai épousé. Et lui, venait par contre de faire...
Écoutons une seconde, les gens vont tout de suite savoir, ceux qui ne connaissent pas John Barry, je pense que c'est à peu près tout le monde, un petit bout d'une de ses musiques, parmi beaucoup d'autres. Voilà, évidemment, on a reconnu le générique de James Bond. Et donc, à 17 ans, vous épousez un des plus grands compositeurs de musique de film du monde. Il a disparu voici maintenant quelques années, mais ça représentait quelque chose pour vous, ce métier musical qu'il avait déjà tellement important à ce moment-là ?
Je pense que ça m'a sidéré pas mal,
oui.
Quand même. Quand on voit quelqu'un en train de diriger un orchestre de 80 musiciens pour un Lion en hiver ou je sais pas Out of Africa où il a gagné 2 Oscars le jour même où j'ai eu ma fille Kate. Donc j'aurais préféré qu'il parlait de ma fille Kate et pas les Oscars de John Barry, mais bon, c'était comme ça. Et il était très très célèbre et oui, c'était probablement l'anglais le plus connu pour les musiques de films, oui.
Et vous l'avez épousé à 17 ans, il y avait une part de provocation vis-à-vis de votre famille,
tout
ça ? Non, pas du tout, non ?
Ah, de ma famille, il voulait absolument pas.
Oui,
il fallait que j'attende 18, donc j'avais 18, mais j'étais quand même mineure parce qu'à l'époque c'était 21 ans. Et mon père était très, très contre parce qu'il avait déjà été marié. Il avait un enfant avec la fille au père. Ça faisait un grand séducteur qui prend leur fille qui sortait de l'internat.
Exactement.
Ils avaient raison d'ailleurs, complètement raison.
C'était un peu ça.
Il fallait juste attendre 2 ans et moi et mon bébé Kate étaient de retour chez eux.
Alors, entre votre mère qui était chanteuse proche de Noël Coward, votre premier mari, grand compositeur, vous aviez-vous dans la tête l'idée que la musique, ce serait peut-être important dans votre vie ou c'était...
Pas du tout
ça à ce moment-là.
Pas du tout.
Non.
Non, parce que j'avais pas une voix, personne n'a remarqué une voix, malgré le fait que j'ai fait une comédie musicale. Même mon mari, il n'avait pas été sidéré par ma voix.
Il n'aurait pas pensé comme Gainsbourg à vous faire chanter.
Je pense pas qu'il avait pensé de chanter un octave au-dessus.
Voilà,
et peut-être c'est ça que Serge a compris tout de suite.
Voilà, c'est ça. Et c'est Serge, donc, on peut dire, qui, d'une certaine façon, a fait de vous une chanteuse, a découvert que vous étiez une chanteuse.
Complètement.
Et ça, c'est arrivé, évidemment, quelques années plus tard, en 68. On va faire un petit saut dans le temps et vous retrouver, donc, avec Serge Gainsbourg.
Tourne-toi. C'est bien. plus cher aujourd'hui.
Non.
Dis bonjour. Je crois qu'il serait temps peut-être de présenter Jane Birkin. Vous connaissez Serge Gainsbourg depuis quand, Jane?
Je pense 7 mois maintenant.
7 mois?
Oui, 7-8 mois.
Est-ce qu'il est important pour vous dans votre vie, Serge Gainsbourg?
Oui.
Ça veut dire quoi, ce oui?
Ça veut dire grande importance. Oui.
C'est une chose qui peut aller très loin? Ou c'est une aventure passagère?
Passagère, ça veut dire quoi?
Qui ne dure pas longtemps.
J'espère que non. Mais on ne sait jamais, mais j'espère que non.
J'ai lu dans les gazettes que le mariage serait pour bientôt.
Oh.
Ça, c'est... Les journalistes voient plus loin que nous.
Ben, beaucoup plus loin.
Vous n'y avez jamais pensé?
Non.
Tous les deux?
Oui, j'ai pensé, et c'est pour ça que je ne veux pas.
Il vous l'a proposé?
Oh non, c'était une chose que... On avait décidé que c'est... On n'avait pas voulu du tout.
Non, pas besoin.
J'avais intérêt. Essayé. Mais je ne veux pas.
Moi aussi, j'ai essayé deux fois.
Il avait essayé. Moi, j'ai peur de faire ça.
Vous avez peur parce que vous n'avez pas confiance dans Serge Gainsbourg ou simplement parce que vous n'avez pas confiance dans le mariage?
Non, j'ai confiance en lui, c'est pour ça que je n'avais pas besoin de mariage pour dire plus que ça.
C'est une jolie déclaration d'amour.
Oui, pas mal.
Mais Jane Birkin, pour vous, est-ce que c'est la femme idéale, Serge Gainsbourg?
Actuellement, oui. Absolument.
Actuellement et trop?
Ah, je regrette, je ne suis pas une pitonisse.
La plus ancienne archive que j'ai trouvée de Jane Birkin à la radio de vous, c'était, on a reconnu Jacques Chancel, Radioscopie, en février 69. Vous avez l'air tellement timide.
Je trouve qu'il y a des qualités de dire très peu de choses. C'est plutôt bien envoyé, je trouve.
Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Et puis les questions, c'est un peu insolent.
Il charrie quand même.
Oui, il charrie. Vous avez connu, j'ai remarqué en fait, finalement, Gainsbourg à peu près au moment des événements de mai 68.
C'était après.
Avril, mai 60, d'abord à Londres, puis à Paris, enfin vous étiez...
Non, parce qu'il n'était pas à Londres. Donc quand j'étais arrivée pour faire le petit essai,
ouais.
Ça avait peut-être tout juste démarré à Paris. Je pense qu'on a sauté la voiture de notre metteur en scène, Pierre Grimblat, qui quand même je dois tout, ma vie en France, Sèges, vraiment... Et je crois que ça, c'était peut-être début mai. Et puis, on m'a empêché de venir justement parce qu'il y avait la révolution à Paris.
Ah oui, c'est
donc,
ça,
on ne m'a pas permis de prendre l'avion qui était à Le Bourget. Il y avait les couches de ma fille Kate qui partaient, qui étaient en tissu à cette époque-là, qui partaient. Et puis, nous, on n'était pas permis de monter dans l'avion. Donc, il fallait que ça soit calme en France pour pouvoir démarrer le film Slogan en juin.
Au mois de juin, voilà. Donc vous êtes arrivée ici, effectivement, on le sait, comme une actrice. Mais au bout de combien de temps Serge a pensé que vous pourriez être une chanteuse?
Je ne sais pas.
Non.
C'était à propos de « Je t'aime non plus ». Donc ce n'était pas pour être une chanteuse, vraiment. C'était pour faire cette chanson avec lui, qui était plus une chanson intime. Donc je l'ai dit oui tout de suite.
C'était cette chanson-là, le « Je t'aime moi non
c'était
plus ».
C'était
ça, vraiment, oui.
Avec le prélude de Chopin de l'autre côté, ce qui m'a beaucoup flattée. Mais...
Vous jouez du piano?
Un peu.
Un petit peu.
Quand j'étais jeune, nos parents nous faisaient jouer le piano, évidemment. Mais je n'ai pas été brillant et je n'ai pas continué du tout. Mais tout de même, Chopin, je connaissais.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il avait voulu, au fond, avec vous, créer un style vraiment anglais dans la chanson, à travers votre voix, votre style, votre accent, tout ce qu'il a écrit pour vous. Il y avait quand même une chanteuse anglaise qui était très populaire en France à l'époque aussi. C'était Petula Clark.
Oui.
Vous l'aimiez, vous?
Oui, mais pour les tubes qu'elle a fait en Angleterre.
Ah oui,
donc c'était...
qu'on ne connaît pas en France d'ailleurs, hein. Ou très mal. Pour nous, c'est la gadoue quand même.
Ah oui, alors que pour nous, c'est... Oh, sometime. Oh, elle chantait avec Sinatra. Enfin, c'était ultra connu. Petula Clark. Aussi, elle était un enfant dans le cinéma. Ça, j'ai raté, mais quand elle était enfant, elle était, comme Charlotte, elle avait commencé à 9 ans, je crois.
Ouais.
Donc, c'était un personnage d'une très grande popularité, ses chansons aussi. Donc, je la connaissais, bien sûr, mais je ne connaissais pas du tout la gadoue.
Ah oui, vous connaissiez pas la Gadoue,
qui était
le grand tube franco-anglais de l'époque.
Mais les chansons françaises passaient pas en Angleterre beaucoup. Piaf, bien sûr, dans les restaurants français, évidemment. Mais sinon, nous n'avons pas eu la curiosité que vous avez à propos de nous. Peut-être parce que c'était la révolution anglaise aussi, parce qu'il y a eu tout d'un coup Rolling Stones, The Beatles. Voilà, donc c'était tout ça, c'était une époque anglaise.
Oui, bien
sûr. Pense que c'est pour ça que Serge était contente que je sois anglaise, que j'avais emmené avec moi un peu de Alors la gloire de Blow Up et Swinging London, malgré tout.
Alors c'est donc le...
Si on connaissait Françoise Hardy, pardon. Parce que j'avais essayé qu'elle chante un James Bond avec John. Et je l'avais traînée jusqu'au Savoy Theatre en Angleterre, où elle s'est produite. Et
après avoir rencontré Serge, vous continuiez à fréquenter quand même John
Non,
Barry.
Ça c'était avant. Non, c'était avant.
D'accord.
Et après, tous les garçons et les filles de mon âge, je suis retournée en Angleterre, j'ai fait une pièce de théâtre. Et puis j'ai fait une deuxième qui était la comédie musicale. Puis j'ai épousé John et je connaissais alors Françoise Hardy. Elle était tellement particulière. Elle doit être une des filles les plus originales du monde. Elle était là, elle ne faisait pas un effort, elle ne souriait pas. Elle était dans une petite robe de Paco Rabanne avec cette formidable voix. Belle, belle comme... Pour moi, c'est vraiment la plus belle.
Vous la voyez toujours?
Oui.
Oui.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup. On la salue, en tout cas elle est venue ici, on a passé un très bon moment avec elle il y a quelques temps, Françoise Hardy, qui d'ailleurs au fond, je ne veux pas dire vous ne vous ressemblez pas physiquement, mais quand même il y avait...
Ah si, j'espère.
Il y a quelque chose, il y avait un nouveau style qui finalement elle avait déjà un petit peu mis en germe comme ça.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait, en plus chic.
En plus chic.
Elle était... ouais, oui.
Il y avait aussi, déjà depuis le début des années 60, une mode un peu de ce qu'on pourrait appeler les garçons manqués. Il y avait Dany aussi, des gens comme ça, non?
Oui, oui, bien sûr. C'était pas tellement original.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais...
Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Françoise était déjà là et moi j'étais dans un internat avenue Bugeaud, chez Madame Pouget. J'avais acheté son disque, Tous les garçons et les filles de mon âge, et on m'a pris pour elle quand Edith Piaf est morte.
Ah, vous voyez?
Mais oui. Il dit, le foule chuchotait, c'est Françoise Hardy. Donc je n'osais pas dire oui ou non, de peur d'être trahie par mon accent.
Alors c'est le succès un peu scandaleux de Je t'aime, moi non plus, qui finalement vous a décidé avec Gainsbourg que vous pouviez vraiment faire de la chanson et que vous alliez en faire plus.
Écoute, je ne sais pas. Comme on était ensemble, on faisait des shows ensemble pour les Carpentiers. Il m'a écrit Didouda et une dizaine d'autres chansons. Déjà pour sortir Je t'aime non plus, comme c'était supposé d'être interdit aux mineurs. Ouais. Et ça sortait dans une pochette en plastique avec le label qui n'osait pas parce qu'il y avait le Reine d'Hollande qui était majoritaire dans les pourcentages.
Parce que c'était Philips.
Oui, donc ils ont changé d'étiquette en mettant dans une étiquette mineure pour que ça ne se voyait pas trop. Et il fallait trouver une dizaine d'autres chansons pour mettre sur le long playing pour pouvoir le sortir ainsi. Alors, Serge mettait quelques-unes qu'il avait déjà chantées. Et puis, il m'avait écrit un ou deux autres pour pouvoir sortir sur un « Je t'aime non plus » sur un long playing.
Voilà.
Alors déjà, voilà, une petite carrière était amorcée sans ambition.
Et vous avez tout de suite aimé chanter dans ces notes aiguës, etc. Je veux dire, physiquement
ça.
Même.
Ah oui.
Oui.
La décadence, j'étais sûre que ça serait un grand tube. Mais aussi, c'était une extase de chanter aussi haut. J'avais l'impression d'être à l'église. Elle coule les roues et les dents s'émettent.
sais que ça va m'arriver.
Garçons de ma génération ont été marqués par cette phrase qu'on écoutait au lycée en province, aussi plate qu'un garçon, que c'est con, etc. Autre Madeleine, Jane Birkin. Mais surtout, il y a aussi ces merveilleux arrangements de Jean-Claude Vanier,
oui.
Avec les cordes qui jouent, avec la rythmique, c'est très joli, ça enlace la voix comme ça. Vous avez travaillé avec Vanier ou là encore c'était des bandes qui arrivaient toutes faites au studio?
Non, parce qu'il y a eu Melody Nelson.
Oui, bien
donc,
sûr.
On était à Londres ensemble et puis à Paris pour d'autres instruments. Et non, c'était une évidence que c'était une merveille, Melody Nelson. La chose incroyable, c'est que ça n'a paraît-il un succès sur le moment, ce qui semble incroyable maintenant,
oui,
parce
c'est
que
un
c'est
mythe
le
maintenant,
point
ouais.
de référence ouais, de tous les
sûr,
autres
bien
écrivains, bien sûr. Mais ce qu'on sait, j'ai et Vanier travaillé ensemble, je n'étais pas non plus omniprésent rue de Verneuil, je rigolais avec les enfants, j'avais autre chose à faire.
Ah voilà, c'est ça. Mais c'est quand même une question que je me pose depuis longtemps sur Gainsbourg et les arrangements, parce que j'ai toujours trouvé que dans tout ce que Gainsbourg a fait, il y a vraiment un style, une couleur, un esprit toujours
il
tellement personnel.
Oui.
Et pourtant, il a toujours travaillé avec des arrangeurs différents. Il ne faisait pas les arrangements lui-même. Alors, est-ce qu'il était directif? Il savait
très.
Exactement ce qu'il voulait, c'est
Je
ça
Je crois que oui. Déjà, c'était très, très beau avec Colombier.
Oui, Michel Colombier, bien sûr, pour toute la période. Alors, Bardot et tout ça.
Magnifique.
Tout ça. Oui, magnifique, bien sûr.
Lourd et magnifique.
Ouais.
Et avec Vanier, il y avait un côté arabesque qui était avant-gardiste, mais d'une beauté de... Enfin, de l'originalité de Vanier aussi.
Ouais,
il
ouais.
a beaucoup, beaucoup porté, Vanier. Je ne sais pas combien de temps la période Vanier a duré. Et je ne sais pas comment ils se sont connus après Colombier. Je ne sais pas.
On demandera à Jean-Claude Vanier, mais il n'est pas très bavard. Alors, c'est pas facile, mais il nous le dira sûrement.
il est difficile, tout court.
Mais il donne aussi des concerts symphoniques maintenant de ses chansons.
Parce que c'est une très, très grande orchestrateur.
Exactement.
Très, très grande. Et ça, j'étais très chic avec lui quand même, parce qu'il lui faisait signer beaucoup de musique totalement. Et puis, il a aussi il a trouvé des titres. J'ai lu mon journal intime l'autre jour et je dis, oh, ça, j'ai tellement bien. Il vient de trouver tous les titres pour Vanier, pour Le Roi des Mouches, un
oui.
disque qu'il ouais. avait fait. Et il a trouvé en effet des titres de papier, Colmouche, le Roi des Mouches, de Tumouche. Et il était très admirateur de Vanier.
Et donc, il suivait de près le travail des orchestres,
ah oui.
des instruments,
parce
des solistes.
Il ne savait pas l'écrire, mais c'était une grande fan de musique classique, de toute façon.
Voilà.
Il connaissait un bout. Et puis, il avait envie de faire les orchestrations lui-même. C'est juste qu'on ne peut pas tout faire. C'est vrai que les orchestrations de John Barry n'étaient pas à chier non plus. Mais il ne savait pas écrire les mots.
Voilà,
donc
exactement.
Lui, il était en tristesse de ne pas pouvoir écrire une comédie musicale. Et Serge était un peu dans une tristesse de ne pas pouvoir écrire des orchestrations. Voilà. Mais il avait une très forte idée de ce qu'il voulait et il était toujours en avance.
On va justement y venir pour arriver au Gainsbourg Symphonique.
Goraguer.
Goraguer, bien sûr, pour les premières chansons.
Oui.
Évidemment, également très, très grand musicien. J'ai retrouvé un petit document merveilleux, parce que ça, c'est un document radiophonique. Je pense que vous le connaissez. C'est Gainsbourg qui, justement... Vous dites qu'il aimait la musique classique, il jouait même fort bien, puisqu'il va
très
jouer
bien.
Pour nous une valse de Chopin. C'est un enregistrement radiophonique assez rare. Vous le connaissez, non?
Je crois. Ah. Vas-y.
Ma performance, c'est de faire une chose que je pense n'avoir pas fait depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire de toucher au piano classique. Et je vais essayer de pas trop massacrer la valse de l'adieu de Chopin.
Décembre 1962, une émission qui s'appelait Performance. Voilà ce document. Effectivement, vous le connaissiez, Jane Birkin.
Oui, j'avais déjà entendu, mais c'est vrai ce que Serge disait, qu'il avait, il y avait un toucher qui avait beaucoup de sentiments.
Ah oui.
Et c'est vrai que ce qui lui manquait parfois en technique, il y avait en sentiments et en toucher. Ça faisait que quand il était pianiste à Le Touquet, il les fait tomber toutes les filles qui étaient là. Parce qu'il était pianiste de bar, il savait faire évidemment les classiques comme ça, mais plus souvent on lui demandait de faire, je sais pas, Are You Lonesome Tonight ou je sais pas, les comédies musicales américaines qu'il arrivait de faire. Et ont entendu juste quelques fois. Donc, il était un grand sensitive de piano.
Il jouait beaucoup sur le piano de la rue de Verneuil, le Steinway, chez lui.
Oui, mais il jouait pour m'amuser. Il faisait des Cowboys et des Indians. Donc, il faisait... et puis, il faisait... Et les Indiens étaient derrière les rochers. Et puis, il racontait une histoire de ce qui se passait.
Oui,
mais pendant ce temps-là, aux forteresses...
Musique de dessin animé.
Oui, absolument, pour m'amuser. Et il amusait les enfants ainsi aussi. C'était pour ça qu'il n'était pas un snob. Hein. Il voulait nous amuser et nous divertir.
Mais pas un peu de Chopin, un peu de Satie, un peu de... Non, de temps en temps. Non, pas vraiment.
Il pouvait s'il voulait. C'était une grande force de pouvoir faire ça. J'aurais adoré de pouvoir jouer le piano. Charlotte aussi joue très très bien, mais elle joue mieux que Serge.
Vous avez connu Joseph Gainsbourg, son
bien
père,
sûr.
Qui est mort en 1971, qui était aussi musicien après avoir été peintre.
Il était pianiste de bar, lui aussi.
Ouais.
Et il jouait chez Madame Arthur.
Donc il a joué chez Madame Arthur.
Bien sûr. Donc Serge m'emmenait chez Madame Arthur, chez des travestis. Alors, au tout début, je n'en revenais pas. Je toussais monsieur habillé en dame et tellement chou avec Serge qui avait des blagues comme de casser des œufs sur la tête et de faire semblant d'être des poulets. Après, j'ai dit à Serge, il faut emmener papa avec nous. Donc j'ai emmené mon père qui était lui aussi. Il a tombé assez dénu. Mais tout le monde adorait Serge parce qu'ils s'en souvenaient de lui gamin. Et le papa de Serge était un amour. C'était un type d'un romanesque. Et pour les enfants qui étaient Jacqueline, Liliane et Serge, ils gardaient tous les confettis et des chapeaux et des langues de belle-mère de les premières de l'an.
Ah
et
oui.
Quand ils se réveillaient le matin, ils avaient toutes les trivia de chez Maxim's, de partout,
voilà.
Sur leur lit. Donc c'était une grande pianiste et puis il a appris avec beaucoup de larmes. Hein. Il avait des Kleenex au bout du clavier. Pour Serge qui pleurait beaucoup, pour Jacqueline qui joue formidablement, le sœur de Serge, et Liliane. Mais il n'avait pas question de ne pas connaître de jouer le piano. Hein.
Ah oui, c'est ça. C'est une famille vraiment très musicienne. Je ne sais pas si d'ailleurs Gainsbourg, alors je demandais est-ce qu'il jouait du piano. Par ailleurs, autre question, est-ce qu'il écoutait de la musique classique, Beethoven, Debussy, Stravinsky,
tout ça, ou... Je crois que son éducation était déjà faite.
Ouais.
Malheureusement pour moi, je dirais.
Ouais.
Mais... Je ne m'en souviens pas d'avoir écouté des
Inconnus à la maison.
Vous
n'êtes jamais allé ensemble au concert
hein.
Jamais.
Non, il est allé après moi. Il est allé après moi parce que quand il me téléphonait parfois, il allait voir les grands pianistes, justement. Mais pour moi, c'était raté.
C'était raté. En tout cas, vous avez aussi cultivé ce goût de la musique classique. J'ai vu que vous adoriez la cinquième de Mahler, le sacre du printemps, et même des choses plus étonnantes comme la musique de Messiaen. Oui. Enfin, que moi, ça ne m'étonne pas parce que j'adore, mais je veux dire, c'est assez rare chez une chanteuse qu'on dirait plutôt du monde de la variété, d'écouter du Messiaen, et je trouve ça merveilleux.
En fait, c'était parce que j'étais curieux de Ozawa.
Ah oui.
Et je l'avais vu dans un aéroport et quand je suis retournée à Paris, j'étais à Tokyo, j'ai vu sur la télévision qu'il jouait à Pleyel et j'avais très hâte de le voir.
Ouais.
Et je pensais que j'allais écouter Gustav Mahler parce qu'il était un très grand spécialiste de Mahler. Et j'ai pris mes billets, j'ai essayé d'emmener Lulu, le fils de Serge, parce que lui aussi c'est un grand pianiste et lui aussi était élevé par Bambou. De vraiment pas lésiner du tout ses leçons de piano. Elle était très stricte, était une fantastique maman pour ça et pour tout le reste. Mais elle n'a pas voulu justement parce qu'il avait des examens le jour après. Alors me voilà tout seul à appeler elle. J'ai monté dans des sièges qui me semblaient déjà extraordinairement chers. Mais c'était pas mal parce qu'Ozawa est plutôt petit. Donc comme j'étais tout en haut, je pouvais le voir exquise, petite personne qu'il est. Et en fait, c'était Messiaen.
Et
j'ai découvert Messiaen.
La Turangalila. La Turangalila pour notre bonheur et pour celui, j'espère, de mon invité Jane Birkin, qui aime Messiaen. Et ça me fait vraiment plaisir, découvert donc avec Ozawa à Pleyel. Dans ces années Gainsbourg, puisqu'on va revenir à ce disque et à ces concerts Gainsbourg Symphonique, Jane Birkin, vous avez fini par vous considérer comme une chanteuse ou vous voyez plutôt comme une actrice qui fait quelques chansons?
Oh, plutôt une actrice qui faisait des chansons. Ouais. J'étais devenue chanteuse peut-être quand j'ai été capable de chanter...
En public ?
En public, oui.
Au Bataclan ?
Exact.
Ça a été vraiment le tournant ?
Ah oui, parce que jusque-là, c'était playback complet, donc c'était plutôt de faire des mini-comédies musicales,
oui.
Comme je languissais toujours à faire. Pauvre Serge qui trouvait ça un peu ringard. Il était... Maintenant, je me rends compte qu'il m'en a fait un, parce que ce que je fais là, à Radio France, ce que je vais faire, c'est vraiment une comédie musicale à un personnage. Ouais. Donc, il m'a donné mon comédie musicale. Mais c'est vrai que... Voilà, tout ça n'est pas très loin de West Side Story quand même.
Non, bien sûr, ah, bien sûr. Une des œuvres que vous aimez, on aurait pu citer Le Roi et moi, The King and I, etc. Toutes ces œuvres que vous adorez. Une question, vous dites le Bataclan 87, là, tout d'un coup, vous devenez vraiment une chanteuse. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous a aidé à franchir ce pas. Ça a été la rencontre 2 ans avant avec Chéreau et la fausse suivante de Marivaux.
Complètement, parce que si je n'avais pas osé faire Chéreau et si je n'avais pas eu l'expérience Chéreau, ça m'aurait même pas traversé l'esprit que j'aurais pu monter sur une scène et chanter. Ouais. Jamais. Et même quand il y avait question du Bataclan, j'ai dit si j'ai Chéreau, je peux me penser absolument incapable de faire une pièce de théâtre ou une scène sans que ça soit Chéreau qui me faisait allonger par terre contre les murs, qui saurait chaque position que je devrais avoir. Tellement il a été de mettre en scène de chaque mouvement. Enfin, j'étais incapable même de tenir mes mains. Il a dit, si vous allez faire des petits gestes, ça fait vraiment amateur. Donc, si tu ne veux pas faire des grands gestes, alors à ce moment-là, tiens tes pouces et fais des points de tes mains. À un tel point que j'avais disloqué mes pouces complètement quand j'ai fait la fausse suivante, pour me tenir correctement pour une comtesse, pour Chéreau. Donc, pour le Bataclan, je ne savais pas comment faire. Et heureusement, il y avait le Richomme qui a eu l'idée que je commencerais dans la salle, que je traverserais la salle en chantant Didouda et que je montrerais sur la scène.
C'était une comédie musicale aussi.
C'était divine ce qu'il m'a fait faire. Mais je n'aurais pas osé non plus sans Philippe.
Bien sûr.
Mais Serge était sur place, du coup.
Et il était là au Bataclan avec son briquet allumé, etc.
En train d'engueuler les gens s'ils n'allumaient pas leur briquet pour faire le bonheur.
Voilà. Le projet alors de Gainsbourg Symphonique, ça a vu le jour comment c'est...
En Canada, où je faisais les poèmes de Serge, enfin les mots des chansons sans la musique.
Sans la musique. Ouais.
Et j'ai fait ça un petit peu, pas beaucoup, mais... Un petit peu. Et ça s'appelait Gainsbourg Poète Majeur. Et j'ai fait avec Michel Piccoli et Hervé Pierre. Et nous sommes arrivés en Canada. Et j'ai fait une interview avec Monique Géroux où j'avais expliqué que Serge, très souvent, a utilisé les musiques classiques pour les gens qu'il aimait beaucoup, comme Bardot, comme... Bambou, comme Charlotte et moi.
Alors Prélude de Chopin, Symphonie de Brahms, on ne les compte pas.
Oui, bien sûr. Alors, elle a dit, pourquoi tu ne fais pas avec un symphonique? Et je ne sais pas, j'ai dit, je ne savais pas, je n'ai jamais pensé à ça. J'avais peur que ça soit un peu gonflant. Et elle a dit, mais on peut te réceptionner ici avec le Francofolies et puis l'Orchestre Philharmonique de Montréal. Alors après ça, je me suis mis à penser. J'ai contacté Philippe Le Richomme, évidemment. Et puis, un garçon que j'avais connu quand ils ont eu le tsunami en Japon, j'ai filé là-bas à l'idée de ma fille Kate pour faire quelques mini-concerts pour le moral, comme ma mère a fait pendant la guerre à Londres, d'ailleurs. Et sur ce mini-tournée que j'ai fait... Il y avait un pianiste qui me semblait génial et c'était Nobuyuki Nakajima. Et
donc c'est lui qui finalement a fait les arrangements.
Je lui ai demandé de faire les arrangements parce que justement c'est un compositeur dans son propre droit, un compositeur de musique de film, ça s'entend d'ailleurs.
Ouais.
Et il était capable de faire autre chose que juste gonfler le tout avec musique classique comme beaucoup de personnes ont eu cette idée-là. C'est pas tellement original, mais là... Nobu a fait un travail absolument exquis.
D'ailleurs, on va en entendre tout de suite un bout. Alors, enregistré en Pologne,
le
disque
à
Varsovie. Oui. Ça vous irait la valse de Melody Nelson?
Ah, c'est très bien. Et le banc, le roussi,
l'amour aussi, car au long de la vie, le soleil errant et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvrent sur l'infini. Le soleil errant et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvrent sur l'infini.
La valse de Mélodie Nelson, évidemment, Serge Gainsbourg, orchestrée donc par ce grand musicien japonais. Dans...
Nobu,
voilà, tout simplement. Jane Birkin, avec qui vous avez lancé donc cette aventure du Gainsbourg symphonique. Alors, aventure dans laquelle vous avez choisi bon, les morceaux que vous préfériez, finalement.
C'est quoi ? Non, j'ai demandé à Philippe de Richomme de trier dans toutes les loves de Serge pour essayer d'avoir ce que je n'avais pas chanté, ce que je n'avais pas pensé. Parce que lui, c'était un spécialiste de tout Serge. Ouais. Et puis, il y en avait certains morceaux que je ne voulais pas avoir. Donc, une chose entre autres, etc., que j'ai mis, mais pas beaucoup. Il avait déjà pensé à tout. Et puis, Nobu aussi avait les chansons que lui préférait ou qu'il se voyait mieux écrire cette symphonique. Donc, c'était à eux deux.
Voilà, et maintenant, c'est donc dans quelques jours, les concerts à Radio France avec l'Orchestre Philharmonique, notre magnifique Orchestre Philharmonique. Et donc, vous serez là pour... Alors, comment ça se déroule
Il y a généralement une répétition générale,
ouais.
Et puis on y va. Et là, d'autant plus que le 12, c'est complet, donc on nous
une
a ajouté le 11.
Soirée a été ajoutée le 11 avril, il y a encore des
donc,
places.
Donc, on avance.
Voilà.
C'est-à-dire que voilà, c'était une répétition de plus qui a sauté. Mais à moi de travailler comme un dingue pendant une semaine. Là.
Vous êtes contente de monter sur scène maintenant ?
J'adore ça.
Vous n'avez plus peur, plus
trac ? Ce n'est plus moi la question, là. C'est les mélodies de Serge, c'est le travail de Nobu, c'est des beautés de l'affaire, l'orchestre Radio France. Voilà, tout ça est tellement beau déjà, il faut juste que je ne l'abîme pas.
Vous pensez qu'il aurait aimé être joué par un grand orchestre classique ?
Ça, je suis sûre.
Vous en êtes certaine ?
Ah oui, je suis certaine de très peu de choses le concernant, mais là, oui.
Une chose, Jane Birkin, je reviens donc aux années après Gainsbourg, si on peut dire, après 81.
Oui.
Il est resté toujours très proche, finalement, notamment pour votre carrière musicale.
Oui.
Il faut bien le préciser, ça n'a pas été une rupture artistique.
Mais c'est plutôt étonnant parce qu'après tout, il n'y avait aucun contrat entre nous, aucun besoin de faire un autre disque avec moi. Et voilà qu'il a fait Baby Alone in Babylon avec les deux sushis qui fait le bonheur. Enfin, tout, pour moi, les plus belles chansons étaient écrites quand j'étais partie. Parce que peut-être il m'a permis de chanter ses douleurs à lui, sa côté surtout fragile et féminin.
Ouais.
Et garder pour lui la Marseillaise, aux armes, etc. Et puis les Américains, You're Under Arrest, Sorry Angel. Enfin, toutes les beautés qu'il a fait par ailleurs et qui lui a fait de lui un grand vendeur de disques. Parce que tous ces autres disques que j'ai fait avec lui, n'ont pas été des tubes du tout.
Ah bon? Moins que la Marseillaise ou l'homme à la tête de chou et tout
non,
ça?
Non, non, l'homme à la tête de chou n'a pas vendu. Il a vendu après. Ouais. Et Mélodie, après. Mais sinon, de leur époque, non. Et le vrai tube de Serge, c'est Aux Armes, etc., où il était disque platine dans la nuit, pratiquement.
Et cette période reggae où il vous adressait même des sortes de télégrammes en musique. Télégramme pour Jane, on peut l'appeler comme ça, cette chanson, oui. Jane Birkin. Hein.
Oui, oui, je l'ai reçue en vrai.
Vraiment, en télégramme.
C'était beau en télégramme, parce que j'aimerais que ce télégramme soit le plus beau télégramme de tous les télégrammes que tu recevrais jamais. Et tu te mettrais à pleurer en disant « Oh, le joli télégramme ». Oui, oui, c'était bon.
Et là, vous n'étiez plus ensemble, mais voilà, il y avait cette amitié.
Là, on n'était plus ensemble. Et le télégramme n'est plus à moi, parce que je l'ai laissé rue de Verneuil, et ça, j'ai dit « Confisqué ». Et je pense qu'il a fait chanter à Catherine Deneuve.
Ah bon,
il n'était pas quelqu'un qui perdait les affaires.
Enregistré aux Bahamas, dans cette période reggae, donc finalement vous n'avez pas vraiment connu la période reggae parce que c'était
avec Doyon
à ce moment-là.
Non, parce que quand il est parti avec papa et j'ai pas pu les suivre. Ah. Et c'est là où il a composé, dans la nuit beaucoup. Hein. Ouais. Philippe Lerichaud me raconte que quand ils sont partis là-bas, arrivant dans les studios qui avaient des coquerelles sur les machines, enfin c'est comme votre boîte là, mais avec des poules et des,
des animaux
de la ferme qui étaient là. Et Sly Dunbar et les autres avaient des reefers,
Pétards.
Des pétards, mais tu vois, dans du papier journal, énorme, avec leur grande béret. Et puis, il pensait que Serge était le producteur et que Philippe Lerichaud était le chanteur.
Ah oui.
Donc, ils étaient en train de se moquer des Français, comme d'habitude, qu'ils n'avaient jamais rien entendu. Et puis, tout d'un coup, je crois que c'était Sly qui a dit à Serge, s'il y avait un disque où il y avait la fille qui gémissait, là, en disant « je t'aime ». Serge a dit « c'est moi ». Silence respectueux. Et là, ils ont tout enregistré dans une seule journée. Ils ont fait venir Rita Marley pour faire les voix. Tout est bouclé dans la même journée, je crois. Et Philippe Lerichaud est allé dans la chambre à coucher de Serge, dans son petit hôtel un peu minable qui était à Kingston. Et il était assis sur le lit avec 10 morceaux de papier sur le lit, complètement blanche. Et il a dit, tu sais que demain tu chantes et c'est à toi. Il a quitté Serge là-dessus et le matin après, il est rentré dans la chambre de Serge avec une passe pour le réveiller. Et là, Serge était assise dans la même position. Et sur le lit, il y avait les 10 morceaux de papier qui étaient noirs d'écriture. Il avait tout écrit dans la nuit.
Les chansons étaient prêtes.
Ouais.
C'est merveilleux, ça, comme anecdote.
Ouais.
En tout cas, voilà, vous continuez à accompagner Gainsbourg plus que jamais aujourd'hui avec ce projet. C'est ça qui est merveilleux.
Je suis fière, oui.
Ouais.
Chance, non?
Oui, oui, bien sûr.
Ma grande chance.
On va aller vous applaudir, évidemment, hein, à l'Orchestre Philharmonique, donc les 11 et 12 avril. Une question juste, vous disiez là, ils se moquaient des Français comme d'habitude. Vous, la petite Anglaise des années 60, comment vous voyez l'évolution des regards des Français sur les Anglais, des Anglais sur les Français aujourd'hui?
Je crois qu'il a toujours eu une histoire d'amour entre les Anglais, des Français, des Français, des Anglais.
Hein. Ouais.
Et,
ils aiment bien se moquer les uns des autres en même temps.
Je crois, mais ils passent tous leurs vacances en France. Hein.
Absolument, c'est vrai. Merci en tout cas, Jane Birkin, d'avoir été avec nous ce matin. On va se quitter avec Babe Alone, dans les deux versions, tiens, originale et symphonique. Et puis, ben, c'est une joie de parler de musique avec vous, de chansons.
Merci.
J'espère que vous reviendrez.
Merci.
À bientôt.
Babe alone in Babylon, noyé sous les flots de Pontiac, de Cadillac, de Bentley, LA, de Rolls Royce et de Buick. Babe alone in Babylon, noyée sous les flots de musique électrique, de rock'n'roll. Tu recherches un rôle, tu recherches les studios et les traces de Monroe. Les tracés Dieux et déesses de Los Angeles. Babylone, Babylone noyée sous les flots de lumière, de poussière, d'étoiles éphémères. Tu rêves d'éternité. Hélas, tu vas la trouver. Babylone, Babylone noyée sous les flots de tes larmes et le charme de l'avenue de crépuscule. C'est le sang, c'est qui serpente dans le noir.
Jane Birkin, alors dans les deux versions que vous avez entendues successivement de Babylon, la version d'origine et puis la version symphonique que Jane Birkin va reprendre les 11 et 12 avril à l'auditorium de la Maison de la Radio. La mauvaise nouvelle, je viens de vérifier, contrairement à ce que nous avons dit tout à l'heure, je crois qu'il y a malheureusement plus de place pour le 11 et le 12 avril, mais vous pouvez écouter bien sûr le disque Birkin Gainsbourg Symphonique, en attendant la tournée d'ailleurs, qui vous permettra de la revoir, le disque qui est paru chez Parlophone. Et puis tiens, pour répondre aussi à nos auditeurs qui sont très vigilants, et je les en remercie, effectivement, comme je l'ai peut-être mal dit tout à l'heure, le thème de James Bond n'est pas de John Barry, le thème est de Monty Norman, mais c'est l'arrangement de John Barry qui est devenu célèbre avec le film, et John Barry bien sûr a écrit, lui, comme vrai compositeur, beaucoup de musiques très célèbres, comme Amicalement Vôtre et celle que nous avons citée avec mon invité que j'étais si heureux de recevoir aujourd'hui, Jane Birkin. Une musique de circonstance, vous avez peut-être reconnu April in Paris, c'était l'orchestre de Count Basie en 1963. Et puis si vous avez pris en cours l'entretien avec Jane Birkin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur le site francemusique.fr à la page de l'émission Étonnez-moi Benoît. Mais avant de retrouver Martin Penet et l'histoire du Lido, encore un petit peu d'opérette, de l'opérette printanière elle aussi, c'est Chansons d'amour de Franz Schubert, ou plutôt d'après Franz Schubert, sur les musiques arrangées par Henri Berthet.
C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire. J'attends, j'attends celle qui voudra m'aimer.
Ah, le printemps dans mon âme est comme une flamme d'un parfum céleste d'un étambourné.
C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire.
Je crains d'entendre celle qui m'aura aimée.
On voudrait en vérité rester insensible, mais amour te résister, ce n'est pas possible. Car tu veux vaincre et tu vas de tes traits divins. Tu sais percer sans remords le cœur des plus forts.
Venez à moi, brune blonde, prête à bouger mes deux fleurs. Quand Vénus sortit tes ondes, hélas que n'étais-je là.
Je vous chéris, mes deux fidèles, mes petits modèles.
À toutes je donne ma foi, et sans savoir pourquoi. Moi j'attends l'âme ravie, celle qui doit changer ma vie.
Il croit.
Céleste, l'air est embaumé. C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire. J'attends, j'attends celle qui voudra m'aimer.
Ah, le printemps dans mon âme est comme une flamme d'un parfum céleste. L'air est embaumé.
C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire.
Je prends ton sel qui m'aura aimé.
Vous avez reconnu bien sûr Aimé Donia et quelques autres sous la direction de Jésus et Echeverri dans cette belle opérette Chanson d'amour d'Henri Berthet sur les motifs de Franz Schubert. Et puis encore un dernier mot d'opérette, je vous le rappelle, dans quelques jours à Paris au théâtre Trévise, eh bien ce sera Gosse de riche de Maurice Yvain. On n'a pas si souvent l'occasion d'entendre du Maurice Yvain et c'est généralement très bien fait quand ce sont les frivolités parisiennes, avec en plus Christophe Mirambeau, fin connaisseur de ce répertoire. Alors je ne saurais trop vous recommander les 12 et 19 avril cette petite comédie musicale de 1924 de Maurice Yvain, dans laquelle il est question des nouveaux riches et de la façon d'ailleurs, par exemple, dans ce très joli final, cette façon qu'ils ont d'accueillir chez eux dans leur maison de campagne un artiste à la mode.
Si vous abusiez, je ne vous cacherai rien, tout s'arrange très bien.
Très bien, très bien.
J'ai pour vous mon chef, avec un bon lit, une chambre d'amis.
D'amis, d'amis, c'est en vérité d'une grande simplicité. Dans votre castel, monsieur sera mieux qu'à l'hôtel, et nous peindra s'il le veut, dans votre jardin sous le ciel bleu.
Parbleu, parbleu.
Parbleu.
Je compte sur vous, ce sera charmant et pratique vraiment.
Vraiment, vraiment.
Un artiste élu par des gens de goût doit les suivre partout.
Partout, partout. Songez qu'autrefois, quand un atour suivait le roi, et que ses pastels à cause de ça sont immortels. Nous ne sommes pas le roi Louis, mais c'est pareil aujourd'hui. Nul talent sans nous ne reste pas lui.
Parlez la parole.
Quel bon temps l'on va passer.
Mon cœur s'abandonne
à l'extase des pensées.
So
semblez un peu soucieux, cher monsieur.
Un scrupule que je bannis, c'est fini.
Il est entendu qu'on part ce soir pour vendre ma loire.
Mais bien sûr, c'est entendu.
Un monsieur s'est entendu.
Monsieur nous a répondu.
Moi, vous avez répondu.
Pas besoin de se dire au revoir, puisqu'on part tous pour le manoir.
Dès ce soir.
Dès ce soir.
Dès ce soir.
Dès ce soir.
Et nous ensemble, on ira chez la baronne. Quel bon temps nous va passer. Mon cœur s'abandonne. À l'extase des pensées, je me suis rosé ravi, j'ai douillé même enchanté.
Le destin nous a servi, on ne va plus se quitter.
Mais puisqu'on agit à ton gré, puis-je espérer.
Voilà un petit extrait du final de Gosse de riche de Maurice Yvain, une merveilleuse comédie musicale de 1924 que vous pourrez découvrir à Paris au théâtre Trévise. Ce sera les 12 et 19 avril prochains. Il est midi 14 sur France Musique, c'est l'heure de retrouver notre ami Martin Pénet. Martin Pénet et sa valise pleine d'archives qu'il est allé chercher pour nous dans les greniers de la Maison de la Radio et de l'INA. Bonjour Martin.
Bonjour Benoît.
Alors, vous allez nous parler aujourd'hui du Lido.
Oui, parce que lorsque l'on évoque les grands cabarets parisiens, les noms qui viennent en tête sont ceux du Moulin Rouge, bien sûr, du Lido, bien sûr, et du Paradis Latin, et du défunt Alcazar de Jean-Marie Rivière. Alors tous sont héritiers des musicaux, la grand spectacle des années folles dont je vous ai déjà parlé dans ces chroniques, comme le Casino de Paris, les Folies Bergères, le Palace ou Bataclan, qui à l'époque était un musical. Le propre de ces cabarets, c'est de présenter une formule de dîner-spectacle avec des revues fastueuses où l'imagination des costumiers et des metteurs en scène essaie toujours d'innover, ce qui n'est pas si facile dans un genre qui est quand même très très codifié, car il faut offrir au public ce qu'il est venu voir. Une image du charme de Paris élaborée depuis plus d'un siècle et qui s'est exportée dans le monde entier. Alors impossible de ne pas inclure un escalier, des plumes, des strass, des paillettes, des Belle Girls et surtout un numéro de French Cancan. Alors la nouvelle revue du Lido, Paris Merveille, a été composée et mise en scène par Franco Dragone et il a brillamment relevé le Paris mêlant tradition et modernité, que ce soit sur le plan artistique ou technique, et il y en a vraiment pour tous les goûts.
Aux J'espère que vous avez pensé aux invitations pour le dîner-spectacle, mon cher Martin
Pénet.
Mais
j'ai pensé, non seulement j'ai pensé, mais j'y suis allé.
Ah, vous y êtes allé, sans moi.
Je vous inviterai la prochaine fois. Donc, c'est un extrait du final de la nouvelle revue du Lido, Paris Merveille, qui est présenté depuis avril 2015. Et donc, ça m'a donné envie d'évoquer l'histoire de ce cabaret mythique. Et vous allez voir, on va remonter assez loin puisqu'il s'agit de 1928. Et à l'époque, c'était un vaste lieu de divertissement ultra chic, évoquant la plage vénitienne du Lido, qui a été ouvert au 78 avenue des Champs-Élysées, dans ce qui deviendra l'actuelle galerie des Arcades. Donc une piscine et une plage artificielle au sous-sol, de nombreuses attractions au rez-de-chaussée, un dancing, un cercle de jeux, institut de beauté, bar monumental, pergola, puis évidemment quelques gondoles pour parfaire l'ambiance. Bon, alors c'est cette espèce d'Éden incroyable a été fermée en 1933. L'établissement est repris en 36 par le célèbre directeur de music hall Léon Volterra, qui remplace la piscine du sous-sol par une salle de spectacle. Ça dure comme ça quelques années et après la libération, elle est rachetée par les frères Joseph et Louis Cléricot qui la transforment entièrement pour en faire un cabaret et en confie la direction artistique à l'entreprenant Pierre-Louis Guérin. Et ce Pierre-Louis Guérin racontera son histoire en 1949 au micro de Jacques Charles qui fut avant la guerre évidemment un des principaux metteurs en scène de revues de musicaux La Grand Spectacle.
Permettez-moi de vous présenter Pierre-Louis Guérin, directeur et producteur du Lido. Il y a combien de temps que vous dirigez le Lido ?
4 ans.
J'ai repris le Ido à Léon Volterra exactement en 1945.
Et vous y avez étonnamment réussi, mon cher. Je dois vous avouer que je ne croyais pas beaucoup à votre réussite. Pas plus que je n'avais cru d'ailleurs à celle du Lido. J'avais tort, car vous avez prouvé le contraire. Vous êtes de ceux qui, pour leur coup d'essai, font des coups de maître. Si votre premier spectacle était bien, le second, Confetti, était mieux encore.
C'est avec des confettis, grands ou petits, que l'on embellit la vie, vive les confettis. Joyeusement, ils volent de tous côtés, et puis soudain s'étalent comme de petits pétales. Ils mettent partout de la gaieté, comme un gai tourbillon de papillons. Allons, n'hésitez pas, jetez donc sans répit des confettis, que la lune soit générale. Allons-y, car voici le carnaval. En
1945, j'ai présenté mon premier spectacle au Lido après l'avoir redécoré.
Décoration dont je vous félicite d'ailleurs, car elle est somptueuse et intime tout à la fois, ce qui est très difficile à réaliser. Le cadre, composé par Régal, est digne des tableaux que vous présentez. Mais vous avez eu de l'audace, mon cher, de ne pas hésiter à prendre d'entrée des risques formidables.
Parce que je pense que la qualité paye toujours.
Eh oui, mais c'est égal. Aller chercher des attractions en Amérique, au prix où est le dollar, c'est comme on dit, avoir de l'estomac.
Je sais, mais quand j'ai commencé au Lido, tous les spécialistes, les plus grands pontifs du spectacle, ont haussé les épaules en précisant que ce serait la faillite avant 3 mois.
Oh, dame, cela semblait une folie de vouloir payer le salaire de plus de 200 personnes avec une salle de 900 places seulement.
Pas tellement, puisque maintenant j'ai 205 employés à faire vivre et que le Lido continue à être bénéficiaire, vous le savez.
Oui, je sais aussi ce que je ne dois admirer le plus de cet extraordinaire ventriloque, de l'homme aux marionnettes ou des danseurs existentialistes. Malheureusement, aucune de ces attractions n'est susceptible d'intéresser les auditeurs de la radiodiffusion française.
Il nous faudrait la télévision.
En attendant, nous pourrions demander à des idex ce qu'elle chantait dans la précédente revue, un air très amusant, avec un titre bizarre.
Ah oui, je me rappelle. Zip Padidouda.
Ah, c'est ça, c'est ça. Vous parlez bien anglais.
Je vais essayer de rappeler, vous savez.
Ah, mais vous parlez bien anglais.
Zip Padidouda, Zip Padidé, bonjour, tout me souriez, je suis gay. Le soleil brille aux Champs-Élysées. Zippity-douda, zippity-hé, un oiseau sous la charmille fait cui-cui et me dit, je viens de gober une chenille. Zippity-douda, zippity-hé, tous mes moustilles, tous me ranguer.
Daisy Dex, après Josette Daïdé, Pierre-Louis Guérin, Jacques Charles, dans ce merveilleux document 1949 de l'INA que vous avez trouvé pour nous, Martin Péné. Je pensais pas qu'on pouvait parler à la fois de l'existentialisme et du Lido dans une même interview.
Ah, mais vous voyez, tout est possible finalement dans ces chroniques. Alors donc, ces revues conçues par Pierre-Louis Guérin et René Fradet, mises en scène par Don Arden, attirent le tout Paris et les stars internationales de passage chez nous. Et en 1950, une fantaisiste belge est engagée dans la revue Enchantement. Il s'agit, figurez-vous, vous de la jeune Annie Cordy.
Ça, j'avais deviné.
Hélas, pas de trace à l'INA d'une quelconque captation sonore de cette revue. Et il faudra attendre les saisons suivantes, et en particulier 1957 avec la revue Prestige. Et là, l'enregistrement que je vais vous faire écouter, je pense, n'a jamais été diffusé sur les ondes en raison de sa prise de son un peu approximative. Malgré tout, il nous plonge d'emblée dans l'atmosphère d'une revue parisienne des années 50.
Thank you.
Paris, c'est du champagne, la revue du Lido en 1957, une archive que nous propose aujourd'hui Martin Penet.
Et les spectacles du Lido, à l'époque, se succèdent au rythme annuel. Contrairement aux revues du Casino de Paris ou des Folies Bergères de cette époque, le Lido mise moins sur la présence à l'affiche d'une vedette que sur la qualité des numéros présentés. Alors bien sûr, il y a le French Cancan, mais l'attraction principale est constituée depuis 1948 par la troupe The Girls de la fameuse Miss Bluebell, alias Margaret Kelly. Alors celle-ci nous a quittés en 2004 après une carrière très bien remplie. Et j'ai retrouvé une interview de l'été 1971 pour le journal de France Inter où elle nous livre quelques-uns de ses secrets.
Tout de suite, nous allons nous attaquer à cette vie parisienne qui ne connaît pas de trêve, c'est-à-dire la vie de ces grands cabarets comme le Lido, dont vous êtes Miss Bluebell depuis 25 ans maintenant, l'une des chevilles ouvrières.
Je suis exactement 24 ans au Lido, oui.
24 ans.
Oui, oui.
Quel est votre travail exactement?
Mon travail, c'est un peu tout. D'abord, je suis la directrice de la scène au Lido. Après ça, naturellement, je suis responsable pour les Bluebell Girls et puis tous les artistes qui sont engagés, sauf les attractions.
24 ans au Lido, cela fait combien de Bluebell Girls?
24 ans au Lido, ça fait 6 000 à Paris.
6 000 à Paris?
Oui.
De quel âge à quel âge?
Par ensemble, naturellement.
De quel âge à quel âge?
Le plus jeune, c'est 16 ans et le plus âgé, 28 ans.
Tous les téléspectateurs connaissent ces Bluebell Girls. Ils les ont vus dans les émissions de variété de prestige à la télévision. Comment forme-t-on une Bluebell Girl?
En formant Bluebell Girl, première chose, en principe, toutes les Bluebell Girls viennent de les grandes écoles classiques. Et alors, quand ils sont trop grands pour rentrer dans une ballet comme à l'opéra ou à Londres, alors les principales de les maisons conseillent de me contacter moi parce qu'ils savent que je cherche toujours les grandes filles. N'oubliez pas que les tailles de les Bluebell, la plus petite c'est 1m75 et la plus grande c'est 81.
D'où vient ce mot Bluebell?
Bluebell, ça vient d'un nom qui m'a donné à moi quand j'étais tout petite. Et un docteur irlandais, parce que j'étais née à Dublin, je suis irlandaise d'origine, il m'a dit à ma mère qu'il préférait que j'étais appelée Bluebell. Alors ma mère, qui était un petit peu excentrique irlandais, elle a trouvé que c'était mignon et puis j'étais toujours appelée Bluebell.
On parle souvent de Miss Bluebell et on la connaît assez peu. Le grand public ne vous connaît pas, Miss Bluebell. Êtes-vous une femme autoritaire? Avez-vous besoin de cette autorité pour régner sur cet univers?
Il faut bien avoir l'autorité, oui. Parce que quand il y a un groupe de personnes qui travaillent ensemble, il faut une discipline dans n'importe quelle équipe, n'est-ce pas? Alors il faut bien être autoritaire, oui.
Il y a des Bluebell qui sont devenues célèbres en quittant la troupe.
Oui, il y en a plusieurs qui sont, comme exemple les Kessler, qui sont très connus maintenant, les jumelles.
Vous les laissez partir facilement?
Si c'est pour améliorer sa situation, je n'empêcherai pas.
Que font-elles après?
La plus grande partie se marie.
Miss Bluebell, la patronne des Bluebell Girls, là c'est en 1971, Martin Penet.
Oui, et en 1977, la direction du Lido passe aux mains de Christian Clericot et le célèbre cabaret quitte le sous-sol de la Galerie des Arcades du 78 de l'avenue des Champs-Élysées pour le 116 bis, dans un immeuble qui habite également le cinéma Normandie. Alors après des travaux considérables, eh bien il y a une salle panoramique de 1200 places qui est construite avec une machinerie extraordinaire. Pierre-Louis Guérin et René Fradet continuent à assurer la réalisation des revues et en 1977, la revue inaugurale de la nouvelle salle s'intitule « Allez Lido » avec les sœurs Kessler, les fameuses sœurs Kessler, Hélène et Alice. Et ce spectacle fait même l'objet d'un disque 33 tours dont je vous passe l'extrait du final.
Ah voilà, on a envie d'y aller au Lido avec vous, Martin Penet. Ça, c'était en 1977.
Oui, à la nouvelle adresse 116 bis Champs-Élysées. Et donc, les revues maintenant durent beaucoup plus longtemps à l'affiche parce qu'elles coûtent des fortunes à faire. Donc, c'est plus chaque année, c'est tous les 5 ans, 10 ans qu'on renouvelle. Et c'est là qu'est présentée donc l'actuelle revue Paris Merveille que je vous recommande d'aller voir.
Et on remercie Lina.
Bien sûr,
qui nous a aidé.
Toutes les archives, en particulier Catherine Louboutin.
S'achève et tenez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Yannick Magnien avec Emmanuel Dupuis, Victor Buton, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, on parlera davantage d'opérette, entre autres, avec mon invité, le chanteur Mathieu Sempéré. Bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez maintenant rendez-vous avec Philippe Venturini.